Alors, chers amis, la conférence qu'on vous a annoncée pour cet après-midi a pour titre « Église et contre-église ». Et comme vous le savez, ce titre n'est pas de moi, puisque c'est celui que M. l'abbé Duchalard a donné aux actes du colloque qui a eu lieu en janvier 96, c'est-à-dire l'an dernier, à Rome, dans le cadre de sa revue « Sisti Nono », le courrier de Rome. En reprenant ce titre et en mettant comme sous-titre synthèse des travaux de ce colloque, j'ai voulu explicitement vous dire que j'allais vous proposer une forme de résumé, vous permettre de voir un petit peu, à vous qui n'avez pas pu y être, ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Comme disait à l'instant M. Bémaré, c'est important de bien renforcer ses convictions. Nous ne sommes pas là où nous sommes aujourd'hui par hasard. Nous n'avons pas pris cette décision non plus sur un coup de tête. Nous n'avons pas décidé de défendre la tradition aux côtés de Mgr Lefebvre pour des raisons, j'allais dire, simplement sentimentales, ni même personnelles. Non, il s'agit bien de convictions doctrinales, non pas des raisons sentimentales, mais des convictions doctrinales. Il est important que nous nous rappelions bien les principes et les fondements de ces convictions doctrinales-là, cette doctrine qui n'est pas la nôtre, cette doctrine que nous avons reçue et que nous nous efforçons de transmettre à ceux qui nous suivent. Église et contre-église, le titre montre bien qu'il y a une bagarre, il y a un combat terrible, l'Église contre l'Église. Et on se demande comment est-ce que c'est possible, ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir deux Églises? On sait bien, nous qui chantons dans le credo, nous l'avons encore chanté ce matin, je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, romaine, une. Alors comment est-ce qu'il peut y en avoir deux? Comment est-ce qu'il y en a une qui irait contre l'autre? Rien que ce titre-là pose un problème. Et le sous-titre du colloque de M. l'abbé Duchalard, c'était bien cela. C'était les problèmes posés à la conscience catholique par le dernier concile. Il y a des problèmes qui se posent. Il n'y en a pas le droit de les esquiver. Hier, nous voyions avec le père Calmet, on avait le devoir d'être loyaux. La loyauté, c'est ne pas esquiver les responsabilités. Voir les problèmes tels qu'ils sont en face. Il y a un problème qui se pose tout de suite dès qu'on entend ce titre, Église contre Église. Et ça fait souffrir. On ne dit pas cela en s'en réjouissant, on ne dit pas cela de façon fière. Ça fait souffrir parce que ça exprime donc qu'il y a quoi? Une opposition, une division, une séparation. La conscience catholique est heurtée, choquée. C'est un problème. Alors évidemment, on pourrait dire, mais moi j'aime pas les heurts, j'aime pas les chocs, j'aime pas les bosses. Alors je ne me pose pas de questions, il n'y a pas de problème, parce que je veux pas qu'il y en ait. Mais c'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. C'est ainsi, ça s'impose à nous. Comment peut-il y avoir une opposition à l'intérieur de l'Église? Comment peut-il y avoir, comme l'a dit d'ailleurs le pape Paul VI, une autodestruction? C'est un mystère. Évidemment, on ne va pas le résoudre, mais on a le devoir de mieux cerner, mieux comprendre le problème tel qu'il se pose. La première chose que l'on doit faire lorsqu'on est normalement constitué, c'est se dire, quand il y a des effets, on cherche la cause. Quand il y a des symptômes, on cherche la maladie. C'est normal. On fait fonctionner son intelligence, on constate quelque chose qui ne va pas. On se dit, mais où est-ce que ça ne va pas? C'est tout simple, vous avez tous une voiture, votre voiture n'avance plus, vous constatez, c'est un effet, elle n'avance plus. Alors c'est où? C'est la batterie. Vous allez voir la batterie. C'est du côté de l'arrivée d'essence, qu'est-ce que c'est? Vous cherchez, c'est normal, on va à la cause. Nous, nous sommes dans la même situation, on se dit, mais il y a une crise. Tout le monde, ça, constate cette crise. Il n'y a pas besoin d'être traditionnaliste. Tout le monde constate cette crise. Il n'y a plus de vocation. On nous parle, je lisais un petit peu pour me remettre dans l'esprit du Valais, là, je lisais un peu les journaux, je regardais un petit peu, alors qu'est-ce que je vois, c'est parce que vous avez vu, comme moi, par du mariage des prêtres, c'est une crise, ça. On n'en parlait pas avant, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Les prêtres auraient besoin de se marier maintenant? On voit, et ça vous le voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très 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 poussées, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, on voit une chute vertigineuse de la pratique religieuse. Autrefois en Valais, les églises étaient pleines le dimanche. Quelle pratique il y avait? Je l'avais deviné quand j'étais directeur, me disait autrefois, c'était 80-90%, ça dépendait des Valais, mais enfin, ça... Ceux qui n'y allaient pas, on les voyait. Maintenant, on voit ceux qui y vont. Quand même, quel renversement! Et ça, c'est pas sur un siècle tout de même. C'est sur quelques décennies, c'est-à-dire quelques dizaines d'années. Et vous constatez les faits comme tout le monde, et vous devez vous dire, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Je dis pas qu'il faut soulever le capot, l'église, c'est pas comme une voiture. Mais on cherche quand même. C'est pourquoi? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est doctrinal? Est-ce que c'est moral et doctrinal? Est-ce que on cherche? Ce que je voudrais, au cours de la petite causerie de cet après-midi, comme au cours de celle d'hier, vous l'avez bien compris, c'est pas vous faire une grande conférence complète, exhaustive, où tout est dit, il n'y a plus rien à dire. Ce que je voudrais, c'est un petit peu à la lumière d'ailleurs de ce que le père Calmel nous disait, être le propre d'un enseignant, c'est éveiller. Éveiller. Éveiller quoi? Éveiller le goût de lire certains ouvrages. On ne peut pas, n'est-ce pas, être dans la situation où nous sommes sans nécessairement se former, se renseigner. Je reprends l'image toute simple que je prenais tout à l'heure. Vous avez une voiture, elle n'avance plus, vous cherchez où est la panne. Vous l'avez constaté, la panne, vous cherchez la cause de la panne, c'est normal. Si vous y connaissez rien, vous dites, je vais quand même prendre une notice. Je vais peut-être essayer de voir le mode d'emploi. Les livres dont je vous parle, c'est un petit peu cela. Ce sont des ouvrages qui sont un peu comme les notices. C'est ce qui nous permet de voir quelle est la cause. Il ne suffit pas de constater les faits. Ce que vous ne faites pas pour votre voiture, ne le faites pas pour la situation actuelle. Vous ne vous contenteriez pas de dire, ah ben ouais, il y a une panne. Ça n'avance plus, ben c'est comme ça, ça n'avance plus. Non, personne ne ferait ça ici. Vous chercheriez. Et si vous savez pas où aller, vous dites qu'il faut que je consulte un garagiste, quelqu'un qui s'y connaît, ou j'essaye de voir le beau-frère qui sait un peu, ou je prends la notice, on m'a vendu, je vois un peu comment il fabriquait ce moteur, je sais pas, on fait quelque chose, on se renseigne. Et bien dans la crise de l'Église, c'est la même chose. Alors hier, on avait lu ensemble quelques extraits du père Calmel qui nous permettaient, bien sûr, on avait constaté que l'éducation était quelque chose de délicat, de nécessité... Une information. Il faut s'informer avant de former les autres. C'est la même chose à propos de cette crise de l'Église. On se dit, il faut tout de même voir un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des livres? Alors, des gens formidables comme Abbé Duchalard font paraître des livres comme ça. Alors, il faudrait pas que ces ouvrages, je ne sais pas, restent lettres mortes. Je veux dire par là que ce soit de l'encre sur du papier, et puis on l'achète pour lui faire plaisir. Quand l'abbé Emmanuel passera, il verra le bouquin à la bibliothèque. Comme ça, il faut pas qu'il s'approche de trop, parce qu'il y aurait peut-être de la poussière dessus. Non, c'est évident, on n'achète pas des livres pour faire plaisir. Non, on doit acheter avec l'idée, il y a une information. Il faut savoir pourquoi, mais parce que lorsqu'on est justement loyal, on se doit... de pouvoir apporter des arguments. Il y a autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis, dans votre métier, des gens qui savent ce que vous êtes, parce que je ne pense pas que vous cachiez vos convictions, je ne pense pas que vous en ayez honte, ou alors ce serait que vous seriez plus valaisan. Non, vous êtes valaisan, mais vous n'avez pas honte de vos convictions. Mettez pas ça dans votre poche et le mouchoir par-dessus. Non. Donc, on doit savoir qui vous êtes. Mais on peut aussi se demander, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous allez à la messe à Écône? Pourquoi est-ce que vous allez à la messe ici? Est-ce que vous avez les arguments? Voilà la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut donner des réponses? Ben, il faut savoir. Il faut pouvoir dire un petit peu aux choses, aux gens les choses telles qu'elles sont. Donc au fond, ce que j'aimerais, c'est éveiller, justement, susciter un petit peu ce goût, cet intérêt, cette curiosité, cet enthousiasme pour le combat que nous menons. Donc, bien sûr, c'est pas une conférence exhaustive, elle est plutôt suggestive. Allez, moi, je voudrais vous suggérer le goût de lire, l'envie d'aller un petit peu voir. Et vous apercevrez que ces ouvrages, comme les ouvrages de Monseigneur, que vous avez lus, qu'il faut relire, eh bien, ces ouvrages-là, ils ont du goût. C'est pas des ouvrages insipides. Vous lisez Monseigneur, vous dites, tiens, voilà, quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Il y avait des choses. Vous ouvrez d'autres livres, là, c'est pas les livres qu'on lit le soir avant de s'endormir, c'est plutôt les livres qu'on lit le soir pour s'endormir, tellement vous tendez des mains, il n'y a rien dedans. Ça n'apporte rien. Les livres dont on a parlé, celui du Père Calmel ou celui de Marcel Decort, là, celui dont je vais parler, de M. Abbé du Chalard, c'est des livres où il y a quelque chose, c'est consistant, ça. Ça a du goût, si je veux dire, c'est juteux, c'est pas... ces petits livres insipides, incolores, inodores, sans saveur. Non, là, on voit que c'est les problèmes essentiels qui se posent, c'est les questions fondamentales. C'est ce qu'on n'entend jamais ni à la radio ni à la télévision. Alors, comme j'étais à ce colloque, je vais plutôt parler du petit exposé que j'ai fait, mais de façon très, très rapide, et puis je terminerai par encore un texte du Père Calmel, et puis par le sermon de clôture de Mgr Fellet. Comme hier, j'aimerais bien que ce soit un autre qui ait le dernier mot. Alors ce soir, ce sera Mgr Fellet qui aura le dernier mot, juste après le Père Calmel. Moi, on m'avait donné, vous connaissez tous l'abbé Emmanuel du Chalard. Alors l'abbé du Chalard, c'est quand même pratique, concret, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, celui-là. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, sinon ça ne marcherait pas, ça ne tournerait pas. Et il me dit, ben voilà, il faut faire un colloque, on va faire ça. Ben voilà votre sujet. Il vous donne le sujet, il vous propose pas, il vous l'impose. Il a raison. Il y a comme ça qu'on fait quelque chose, sinon on ne fait rien. Alors il me disait, ben voilà, vous travaillerez sur l'esprit du concile. Bon, très bien. Comme on se connaît, on est au séminaire ensemble, on ne peut pas se refuser. Entre frères, c'est pas possible. D'accord. Alors on va parler d'esprit du concile. Mais au fond, moi j'ai fait comme je vous disais juste avant. On constate, n'est-ce pas, que depuis ce concile, il y a quantité de voyants rouges qui se sont allumés sur le tableau de bord. On se dit, curieux quand même. Alors, quelle est la cause? On constate depuis ce concile, mais il n'y a pas que nous, puisque même les gens qui pratiquent cette réforme conciliaire, qui la font avancer, eux-mêmes reconnaissent que c'est plus comme avant. Il y a des choses qui ont changé. Sur le plan doctrinal, sur le plan de la discipline. Eux, ça les tourmente pas, ils s'en réjouissent presque. Mais ils constatent quand même, comme nous, qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, nous nous en désolons parce que nous disons, mais surtout, il y a moins de prêtres, moins d'âmes pratiquantes. Ça, c'est une vraie préoccupation. Et là, c'est pas des problèmes théoriques, c'est dans toutes les familles, c'est les enfants qui se marient pas, qui vivent à la colle, comme on dit. Ça existe. Les ménages qui tiennent pas. Les enfants qu'on baptise plus. Les enfants qu'on envoie au catéchisme, on n'en voit pas. Les enfants qui font pas la première communion. On voit ces choses-là, pas besoin d'avoir fait 10 ans de théologie pour comprendre qu'il y a un vrai problème. Alors on se demande, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Les gens les plus en pointe dans les réformes, je pense à l'évêque français, l'ex-évêque d'Évreux, Mgr Gaillot, lui n'hésite pas à dire, justement, c'est le grand souffle du concile. C'est plus le grand souffle, là, c'est la tornade, c'est le typhon, c'est le cyclone. Enfin, ça souffle plus, ça enlève tout. Ah bon. Puis vous avez d'autres auteurs, plus ça enlève. Non, justement, il faut dénoncer ces excès, on va trop loin, il faut revenir au vrai concile. Au fond, on n'a pas bien compris le concile, on ne savait pas très très bien comment ça fonctionnait, maintenant on voit. Là, je pense par exemple à l'ouvrage qui est paru il y a déjà cet temps, les entretiens sur la foi du cardinal Ratzinger avec le journaliste Messori. Il dit, on n'a pas encore vraiment bien appliqué le concile. Quand même fâcheux, parce que si au bout de 10, 15, 20, 25 ans, pas encore appliqué, enfin bon. Cette notion qu'on m'avait imposée comme sujet, c'est au fond une notion ambiguë. Au nom de l'esprit du concile, on a à la fois des gens qui vous proposent le progressisme échevelé à la Gaillot, en vous disant, mais oui, il faut promouvoir les préservatifs, mais bien sûr l'homosexualité, mais bien sûr le mariage des prêtres, et on vous dit, ça, c'est le souffle libérateur du concile. Et puis vous avez des esprits comme le cardinal Ratzinger qui disent, non, au nom du concile, justement, faut un petit peu recentrer tout ça. Alors, si on est un tant soit peu logique, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut se réclamer de la même chose et être partisan de choses complètement différentes? Comment est-ce qu'on peut, au nom du même esprit du concile, ou promouvoir une grande réforme, ou ramener à un certain conservatisme, enfin, une forme de modération. On dit, ça prouve donc que cette notion d'esprit du concile, elle est très 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 floue, elle est ambiguë, elle est contradictoire. On ne sait pas comment la saisir, c'est comme une savonnette le matin sous la douche. Ça glisse entre les doigts. On aime bien avoir des choses qui tiennent en main, quoi. Alors, je vous propose, dans l'exposé que nous allons avoir, de réfléchir d'abord sur cette notion d'esprit. Qu'est-ce que c'est pour nous que l'esprit d'une œuvre, l'esprit d'un mouvement, qu'est-ce qu'on cherche quand on dit l'esprit, en général, avant de s'appliquer à l'esprit du concile? Parce que on est gêné, légitimement gêné. Je peux lire un petit extrait de ce que j'avais mis dans le livre. Comment peut-on user du même mot, l'esprit du concile, se référer à ce même esprit pour désigner des réalités qui, d'évidence, dans la pensée même de ceux qui emploient ce mot, sont différentes, divergentes, pour soutenir des positions manifestement contradictoires. Voilà un problème. Là, c'est un problème. Alors, on cherche. Ou la cause, là, il y a une panne. Nous sommes en panne. Quand on voit des choses comme ça, ça fonctionne plus. Logiquement, on se dit, ça va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Comme il y a des moteurs qui ne tournent pas rond, là, il y a une pensée qui ne tourne pas rond. Alors, on cherche. Où est la cause de la panne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis allé chercher un texte d'un conciliaire, un progressiste, un Italien qui s'appelle Giuseppe Alberigo, et qui a fait paraître un article dans la Revue de théologie de Louvain, en 1992. Et Abel Duchalard m'avait dit, c'est intéressant parce que ces textes, maintenant on voit comme le concile est bien avancé, il publie des textes qu'autrefois il n'aurait peut-être pas publiés, ils disent des choses qu'il ne disait pas. Le titre de l'article, de l'étude, c'est « À la veille du Concile Vatican II ». Quels étaient les vœux, quelles étaient les réactions en Europe et dans le catholicisme oriental? La première chose qu'il dit, ce commentateur, Alberigo, il dit d'abord, il faut comprendre que ce concile, il est unique. Il est tout à fait anormal, mais au sens étymologique. C'est-à-dire qu'il n'entre dans aucune norme. Il n'est soumis à aucune norme connue. C'est embêtant, ça, hein. Quand on commence comme cela, on vous dit, ben voilà, ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de précédent. En politique, ça porte un nom. En général, quand vous êtes devant un événement anormal, qui n'a aucun précédent historique, vous êtes en face de ce qu'on appelle une révolution. 1789, c'était ça, en France. 1917, c'était ça, en Russie. Et il s'est trouvé d'ailleurs des pères conciliaires, en tout cas des experts, des gens par exemple comme Concard, pour vous dire, eh ben on a fait notre révolution. Le concile Vatican II, ça a été 1789, ça a été 1917 dans l'Église. Lui, donc cet auteur, il dit, c'est une manifestation sans précédent. Il n'y a pas de norme qui permettrait d'en rendre compte. Lorsque vous êtes face à un événement, vous essayez toujours, si vous avez l'esprit historique, de le rapporter à un autre. Vous dites, ah bah oui, ça rappelle tel événement, on retrouve. Et on va essayer d'analyser l'événement nouveau à la lumière des événements précédents, en appliquant les normes en vigueur. Là, on vous dit non, il n'y a pas de norme. La complexité inédite et l'anomalie historique de l'assemblée conciliaire qui a eu lieu entre 62 et 65 semble poser des problèmes différents tant sur le plan quantitatif que peut-être aussi sur le plan qualitatif. Donc pour cet Alberigo, l'anomalité ou la normalité vient du fait que c'est la première assemblée planétaire. Ça c'était le fait que c'est la première fois qu'on réunissait des évêques de toute la planète. Mais il y a autre chose aussi qui constitue cette singularité, cette unicité, le fait qu'on, c'est unique, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Église, c'est un concile pastoral. Alors, dit-il, on ne peut utiliser que de manière analogique les critères qui s'appliquaient autrefois. les normes qu'on utilise autrefois pour comprendre un phénomène. Non, ça ne marchera pas. Bon. Ensuite, donc ça, c'est, pour lui, c'est le concile événement. C'est un événement unique. N'essayez pas de le rapporter à un autre événement qui aurait existé avant. Ensuite, alors, il étudie les intentions du pape Jean XXIII lorsqu'il a voulu poser, mettre en place, n'est-ce pas, convoquer ce concile. Ensuite, il parle de la nature pastorale du concile. Puis, il parle de ce mot, enfin, que vous connaissez tous, parce que on s'en est gargarisé pendant tout le concile et même après. Justement, quand on voulait parler de l'esprit du concile, qui était le mot qui revenait, quand on voulait dire, voilà, quel est le principe directeur, voilà, quel est l'axe conducteur, voilà ce qui explique le concile, ce qui explique les réformes conciliaires, ce qui explique la nouvelle église, l'église conciliaire. C'est Benelli qui disait qu'il y avait une église conciliaire. Nous, on croyait, jusqu'à présent, qu'il n'y avait qu'une église qui était catholique. On nous parle d'une église conciliaire, post-conciliaire. Quel était le mot qu'on prononçait pour dire ça? Aggiornamento. Et ça, c'est un mot italien qu'on traduit pas bien en français. On ne sait pas très très bien ce que ça signifie. Un renouveau, un renouvellement, une mise à jour. On ne sait pas. Alberigo le dit lui-même. On n'arrive pas très bien à le traduire. Mais ce qui est extraordinaire, il dit, ce mot est très important quand même, parce que c'est lui qui explique tout. Alors on va concentrer notre réflexion, on cherche, je sais pas, d'où vient cette panne. C'est vrai que l'Église est en panne. Je dis pas l'Église, évidemment, mais les gens d'église, les hommes d'église sont en panne. C'est vrai. Alors, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a des curés qui sont en panne. Il y a des évêques aussi qui sont en panne. Ça se voit. Hein. On a envie de faire redémarrer tout ça. Hein. Alors, on cherche la cause de la panne. On nous dit, le concile, c'était une mise à jour, un aggiornamento. Et ici, Alberigo nous dit, très important cette notion-là. Elle va nous permettre de comprendre les choses. Alors, il a un terme technique pour désigner ces choses-là. Il dit ça a une importance herméneutique. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va permettre d'expliquer les choses. L'herméneutique, c'est cette science qui permet d'expliquer, de décrypter, de décoder les choses. C'est ce qu'il nous faut. Nous, justement, on cherche la cause de la panne, donc on a bien besoin d'un décodeur pour essayer de comprendre. Mais on est vite déçu. Il nous dit l'importance herméneutique de l'aggiornamento malgré la difficulté d'une détermination conceptuelle rigoureuse du terme. Alors c'est important pour décrypter les choses, pour comprendre, mais c'est très difficile à déterminer intellectuellement ce truc-là. De façon rigoureuse, on n'arrive pas à déterminer le terme. On n'y voit pas clair. C'est important, mais on n'y voit pas clair. C'est embêtant. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. On vous dit, l'aggiornamento, c'est un petit peu comme un concept clé. Ça va être la clé, hein, pour ouvrir. On est face à une porte. On a besoin donc de l'ouvrir. On cherche la serrure, on se dit, tiens, il va y avoir une clé. On nous dit, c'est une clé, ça va permettre d'ouvrir, débloquer la situation, ouvrir la porte, comprendre, voir ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. C'est un concept clé. On va pouvoir décrypter ce qui a besoin de l'être. Enfin, on est content. Mais en même temps, on vous dit, c'est très important, c'est ça la clé, mais elle est pas très rigoureuse. C'est une clé, mais, comment vous dire, si elle n'est pas rigoureuse, ça veut dire qu'elle est caoutchouteuse, une clé molle. Essayez donc d'ouvrir une serrure avec une clé en caoutchouc. On se demande ce que parler veut dire. Une clé, ça ouvre ou ça n'ouvre pas. Ou bien l'aggiornamento, ça permet de comprendre ou ça permet pas de comprendre. Si ça permet de comprendre, ça ouvre la serrure, on ouvre la porte et on voit qu'est-ce qui se passe derrière. Ou bien la détermination est rigoureuse et on comprendra des choses. Ou alors c'est flou. Ça, cette idée, n'est-ce pas, d'une clé caoutchouteuse, c'est surréaliste, quoi. C'est la montre molle de Salvador Dali, vous avez vu ça, peut-être. C'est pas en Suisse qu'on doit utiliser des montres molles. Heureusement. Alors, donc, on sait que c'est cette notion-là qu'il faut essayer de cerner, et en même temps, on nous dit qu'elle est difficile à expliquer. Alors, on est déçu, on est obligé de passer à une autre réflexion. Alors, je suis allé chercher un texte d'un conciliaire, d'un progressiste, un Italien qui s'appelle Giuseppe Alberigo, et qui a fait paraître un article dans la Revue de théologie de Louvain, en 1992. Et l'abbé Duchalard m'avait dit, c'est intéressant parce que ces textes, maintenant on voit comme le concile est bien avancé, il publie des textes qu'autrefois il n'aurait peut-être pas publiés. Ils disent des choses qu'ils ne disaient pas. Le titre de l'article, de l'étude, c'est « À la veille du concile Vatican II ». Quels étaient les vœux, quelles étaient les réactions en Europe et dans le catholicisme oriental. La première chose qu'il dit, ce commentateur, Alberigo, il dit d'abord, il faut comprendre que ce concile, il est unique. Il est tout à fait anormal, mais au sens étymologique. C'est-à-dire qu'il n'entre dans aucune norme. Il n'est soumis à aucune norme connue. C'est embêtant, ça, hein, quand on commence comme cela, on vous dit, ben voilà, ce qu'on est en train de faire, ça n'a pas de précédent. En politique, ça porte un nom. En général, quand vous êtes devant un événement anormal, qui n'a aucun précédent historique, vous êtes en face de ce qu'on appelle une révolution. 1789, c'était ça, en France. 1917, c'était ça, en Russie. Et il s'est trouvé d'ailleurs des pères conciliaires, en tout cas des experts, des gens, par exemple, comme Concart, pour vous dire, eh bien, on a fait notre révolution. Le concile Vatican II, ça a été 1789, ça a été 1917 dans l'Église. Lui, donc, cet auteur, il dit, c'est une manifestation sans précédent. Il n'y a pas de norme qui permettrait d'en rendre compte. Lorsque vous êtes face à un événement, vous essayez toujours, si vous avez l'esprit historique, de le rapporter à un autre. Vous dites, ah bah oui, ça rappelle tel événement, on retrouve. Et on va essayer d'analyser l'événement nouveau à la lumière des événements précédents, en appliquant les normes en vigueur. Là, on vous dit, non, il n'y a pas de norme. La complexité inédite et l'anomalie historique de l'assemblée conciliaire qui a eu lieu entre 62 et 65 semble poser des problèmes différents, tant sur le plan quantitatif que peut-être aussi sur le plan qualitatif. Donc pour cet Alberigo, l'anomalité ou l'anormalité vient du fait que c'est la première assemblée planétaire. Ça c'était le fait que c'est la première fois qu'on réunissait des évêques de toute la planète. Mais il y a autre chose aussi qui constitue cette singularité, cette unicité, le fait qu'on, c'est unique, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Église, c'est un concile pastoral. Alors, dit-il, on ne peut utiliser que de manière analogique les critères qui s'appliquaient autrefois, les normes qu'on utilisait autrefois pour comprendre un phénomène. Non, ça ne marchera pas. Bon. Ensuite, donc ça, c'est, pour lui, c'est le concile événement. C'est un événement unique. N'essayez pas de le rapporter à un autre événement qui aurait existé avant. Ensuite, alors, il étudie les intentions du pape Jean XXIII lorsqu'il a voulu poser, mettre en place, n'est-ce pas, convoquer ce concile. Ensuite, il parle de la nature pastorale du concile. Puis, il parle de ce mot, enfin, que vous connaissez tous, parce que on s'en est gargarisé pendant tout le concile et même après. Justement, quand on voulait parler de l'esprit du concile, quel était le mot qui revenait? Quand on voulait dire, voilà, quel est le principe directeur, voilà, quel est l'axe conducteur, voilà ce qui explique le concile, ce qui explique les réformes conciliaires, ce qui explique la nouvelle église, l'église conciliaire. C'est Benelli qui disait qu'il y avait une église conciliaire. Nous, on croyait, jusqu'à présent, qu'il n'y avait qu'une église qui était catholique. On nous parle d'une église conciliaire, post-conciliaire. Quel était le mot qu'on prononçait pour dire ça? Aggiornamento. Et ça, c'est un mot italien qu'on ne traduit pas bien en français. On ne sait pas très très bien ce que ça signifie. Un renouveau, un renouvellement, une mise à jour. On ne sait pas. Alberigo le dit lui-même. On n'arrive pas très bien à le traduire. Mais ce qui est extraordinaire, il dit, ce mot est très important quand même, parce que c'est lui qui explique tout. Alors on va concentrer notre réflexion, on cherche, je sais pas, d'où vient cette panne. C'est vrai que l'Église est en panne. Je ne dis pas l'Église, évidemment, mais les gens, l'Église, les hommes, l'Église sont en panne. C'est vrai. Alors, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a des curés qui sont en panne. Il y a des évêques aussi qui sont en panne. Ça se voit. Hein. On a envie de faire redémarrer tout ça. Hein. Alors, on cherche la cause de la panne. On nous dit, le concile, c'était une mise à jour, un aggiornamento. Et ici, Alberigo nous dit, très important cette notion-là, elle va nous permettre de comprendre les choses. Alors il a un terme technique pour désigner ces choses-là, il dit ça a une importance herméneutique. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va permettre d'expliquer les choses. L'herméneutique, c'est cette science qui permet d'expliquer, de décrypter, de décoder les choses. C'est ce qu'il nous faut. Nous, justement, on cherche la cause de la panne, donc on a bien besoin d'un décodeur pour essayer de comprendre. Mais on est vite déçu. Il nous dit l'importance herméneutique de l'aggiornamento, malgré la difficulté d'une détermination conceptuelle rigoureuse du terme. Alors c'est important pour décrypter les choses, pour comprendre, mais c'est très difficile à déterminer intellectuellement ce truc-là. De façon rigoureuse, on n'arrive pas à déterminer le terme. On n'y voit pas clair. C'est important, mais on n'y voit pas clair. C'est embêtant. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. On vous dit, l'aggiornamento, c'est un petit peu comme un concept clé. Ça va être la clé hein, pour ouvrir. On est face à une porte. On a besoin donc de l'ouvrir. On cherche la serrure, on se dit qu'il va y avoir une clé. On nous dit c'est une clé, ça va permettre d'ouvrir, débloquer la situation, ouvrir la porte, comprendre, voir ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. C'est un concept de clé. On va pouvoir décrypter ce qui a besoin de l'être. Enfin, on est content. Mais en même temps, on vous dit, c'est très important, c'est ça la clé, mais elle est pas très rigoureuse. C'est une clé, mais comment vous dire, si elle n'est pas rigoureuse, ça veut dire qu'elle est caoutchouteuse, vous voyez, une clé molle. Essayez donc d'ouvrir une serrure avec une clé en caoutchouc. On se demande ce que parler veut dire. Une clé, ça ouvre ou ça n'ouvre pas. Ou bien l'aggiornamento, ça permet de comprendre ou ça permet pas de comprendre. Si ça permet de comprendre, ça ouvre la serrure, on ouvre la porte et on voit qu'est-ce qui se passe derrière. Ou bien la détermination est rigoureuse et on comprendra des choses. Ou alors c'est flou. Ça, cette idée, n'est-ce pas, d'une clé caoutchouteuse, c'est surréaliste, quoi. C'est la montre molle de Salvador Dali, vous avez vu ça, peut-être. C'est pas en Suisse qu'on doit utiliser des montres molles. Heureusement. Alors, donc, on sait que c'est cette notion-là qu'il faut essayer de cerner, et en même temps, on nous dit qu'elle est difficile à expliquer. Alors, on est déçu. On est obligé de passer à une autre réflexion. On est obligé de passer à un autre ouvrage, Alberigo, ne nous donne pas satisfaction. Alors on se reporte à un ouvrage du pape avant qu'il ne soit pape, lorsqu'il était cardinal, cardinal Wojtyla. Dans son pays, en Pologne, lorsqu'il est revenu du concile, il s'est employé à appliquer le concile. Donc, il a fallu justement qu'il le décrypte, il a fallu justement qu'il décode ce qui était un petit peu mystérieux, qui n'était pas très net, pas très clair. Il a fallu qu'il le rende clair, qu'il l'explique, que tout le monde puisse savoir ce qu'on allait faire. Et il a fait paraître un ouvrage qui s'intitule « Aux sources du renouveau, étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II ». Étude sur la mise en œuvre du Concile Vatican II, c'est paru à Paris aux éditions du Centurion. Une traduction française, là. Sinon, c'est paru en édition originale en polonais. Mais c'est intéressant parce que on voit bien, donc, il étudie le concile. Comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre? Pour mettre en œuvre le concile, il faut donc bien savoir quel est le principe directeur, quel est l'axe conducteur. Donc, ça veut dire que pour arriver à mettre en œuvre le concile, il faut avoir l'esprit du concile. Alors là, c'est intéressant, c'est ce qu'on cherche. Et on retrouve cette expression sous la plume du pape, à l'époque, donc, le cardinal Wojtyla, on retrouve cette expression « un aggiornamento ». Alors, on se dit, ben, on espère qu'on sera moins déçu par le cardinal Wojtyla qu'on ne l'a été par Alberigo. Voici ce qu'il dit, « on attendait du concile un aggiornamento de l'Église, qui ouvre un chemin vers l'union des chrétiens. » Alors là, il donne un sens, le renouveau, au fond, a un but œcuménique. Union des chrétiens. Les traducteurs de ce texte en polonais, les traducteurs français, disent « Le cardinal Wojtyla ne cherche pas à savoir comment il faut mettre en œuvre le concile, il se pose la question « qu'est-ce qui doit être actualisé ?» C'est ça la question. Et ici, là, on commence à trouver qu'il y a des petites choses intéressantes. Cette notion si floue, si molle, si caoutchouteuse, à géométrie variable, d'aggiornamento, on lui donne ici un synonyme. Qu'est-ce qui doit être actualisé? L'aggiornamento, donc, ça serait une actualisation, une réactualisation. On parle aussi d'inculturation. Il faudrait savoir comment est-ce que ce mot italien, si difficile à rendre en français, comment est-ce qu'il était traduit en latin? Parce que vous savez que les actes du Concile Vatican II sont tous en latin. Alors comme le latin est une langue précise, ça serait très précieux pour nous de savoir quels étaient les mots ou le mot qu'on utilisait quand on disait en italien aggiornamento, qu'est-ce qu'on disait en équivalent latin? Ça, c'est intéressant, vous allez tout de suite comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir fait de latin. Aggiornamento est rendu dans les textes du Concile par deux mots tout à fait synonymes. Accommodatio. Il s'agit d'accommoder. Ou alors, renovatio accommodata. On renouvelle en accommodant. Évidemment, accommoder, qu'est-ce que cela signifie? Qui faut-il accommoder? Qu'est-ce qu'il faut accommoder? Comment est-ce qu'on va accommoder? Voilà les questions maintenant qui commencent à se presser à notre esprit. On se demande, bon, je veux comprendre ce qui se passe, on va donc accommoder. Évidemment, vous allez partir du vocabulaire qui est le vôtre, que vous connaissez. Vous, quand vous dites accommoder, qu'est-ce que... On accommode les restes en cuisine. C'est pas glorieux. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un plat avec ce qui était avant, ce qui restait. Bon. Accommoder. Ça veut dire aussi rendre commode. Hein. Rendre commode les choses. On dirait que quelqu'un, tiens, il est accommodant, celui-là. Celui-là, il est pas très accommodant. Renouveler. On cherche, n'est-ce pas, ensemble. Comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas vous faire un exposé, bien que ce soit l'heure de la sieste, je ne voudrais pas vous faire un exposé complètement soporifique. Mais vous avez compris à partir du sermon de ce matin qu'on était entré dans la Septuagésime, période de pénitence, que c'était déjà le violet, qu'il fallait donc venir ici cet après-midi pour faire des sacrifices. Merci. Mais, sans être trop soporifique, on essaie de s'éveiller un petit peu. Intellectuellement, on essaye de voir qu'est-ce que ça signifie, accommoder. Moi, je voudrais qu'on prenne ce mot, par-delà dans vocabulaire des opticiens. Là, c'est quelque chose que vous savez, parce que vous en avez tous l'expérience. Vous savez, l'accommodation visuelle. Si vous entrez dans la quarantaine, comme moi, vous devez savoir ce que c'est que la presbytie. Les yeux s'accommodent moins bien à ce qui est près. On a besoin de certaines lunettes pour y voir un petit peu plus, d'un peu plus près. Si vous êtes myope, ce qui est mon cas, alors vous avez du mal à voir ce qui est loin. On s'accommode. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que ça se passe, cette accommodation? On s'accommode sur l'objet, toujours. C'est-à-dire que mon œil doit se régler sur l'objet. Selon que l'objet est près, selon qu'il est loin, selon que j'essaye de fixer ce micro, selon que j'essaye de fixer l'orgue à la tribune, mon œil va s'accommoder. C'est lui qui se règle sur l'objet. L'objet, il reste ce qu'il est. C'est l'accommodation normale. Imaginez que j'inverse la perspective et que je considère que ce ne soit pas à mon œil de se régler, de s'accommoder, mais que ce soit à l'objet de s'accommoder. C'est-à-dire que je fais en sorte que le micro soit plus près ou plus loin, et c'est lui qui va bouger, c'est pas moi. C'est lui qui va changer, c'est pas moi qui vais me régler. C'est tout à fait différent. Vous voyez là, j'ai déplacé l'accent. Ou bien l'accent est sur l'objet, ou il est sur le sujet. Ou bien c'est le sujet qui s'accommode, l'œil, qui va s'accommoder à l'objet, qui lui bouge pas. Ou bien c'est l'objet qui s'accommode au sujet. Vous dites, enfin, où est-ce qu'il veut en venir avec ces histoires-là? Garder les yeux ouverts, pour la religion, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'accommode à votre avis? C'est Dieu qui s'accommode à l'homme ou c'est l'homme qui s'accommode à Dieu? C'est mon intelligence qui s'accommode à la révélation, c'est la révélation qui s'accommode à moi. Si j'accommode la révélation selon mon humeur, mes caprices, oh, elle deviendra très commode à la fin, parce que j'aurai enlevé tout ce qui m'embête. Si je la laisse telle qu'elle doit être, objectivement, je m'accommode à elle, c'est-à-dire je me règle sur elle. C'est elle qui me dicte ce que j'ai à faire, à être. C'est vraiment différent. À ce moment-là, je vais me hausser à son niveau. Je ne vais pas ravaler le révélé, je ne vais pas mettre le révélé à ma portée, c'est moi qui dois faire l'effort. Ça, voyez-vous, sans avoir à faire de grandes considérations théologiques, beaucoup de gens vous le disent. La nouvelle religion, la religion conciliaire, l'église conciliaire, elle est quand même plus commode. Elle est plus adaptée. Elle est plus adaptée à nous. Mais jusqu'à présent, on considérait que c'était plutôt à nous adapter à la religion, plutôt qu'à elle, à s'adapter à nous. C'est peut-être ça le sens de ce mot mystérieux, aggiornamento. Mais ce que je vous dis là, c'est une hypothèse, il faudrait la vérifier. Où est-ce qu'on pourrait la vérifier? Ben, je crois dans les textes, après tout. Nous, ni vous ni moi, nous n'avons fait le concile. Vous n'étiez pas expert au concile, moi je n'étais pas père conciliaire, l'abbé Marie n'a pas été invité. Alors on prend les textes des acteurs, des auteurs, de ceux qui ont fait le concile, et on les laisse parler, puisque c'est eux qui l'ont fait, bah, qui disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire, avant, pendant surtout, et après encore plus. Alors toujours dans ce texte du cardinal Wojtyla, qu'est-ce que je vois? Que signifie être chrétien et vivre dans l'Église, dans le monde contemporain? Ce sont là des questions de caractère existentiel. Ça touche à l'existence de chaque homme, ça c'est vrai. Mais on vous dit, ça ne concerne pas seulement la vérité de la foi, et donc la seule doctrine. Ça se place aussi dans la conscience et dans l'existence concrète de l'homme. Cette phrase, elle nous met un petit peu mal à l'aise, parce qu'il y a un petit discrédit qui est jeté sur, justement, la vérité de la foi, la seule doctrine. On vous dit, il n'est pas question seulement de la vérité de la foi, pas la seule doctrine, mais aussi la conscience et l'existence concrète de l'homme, le vécu. C'est curieux, n'est-ce pas? On la voit, cette doctrine, pas la seule doctrine, elle est là un petit peu isolé, esselé, presque désolé, la doctrine, dans son petit coin. Non, non, ce qui compte, c'est l'existence, c'est la conscience concrète. Bon, je note cela, je dis pas plus, je me dis, c'est curieux. Nous, on considérait qu'au fond, on avait à mettre notre vie au diapason de nos convictions. Et nos convictions, bien, c'est la doctrine que l'Église nous enseigne. Il n'y a pas à dire qu'il y a la seule doctrine dans un coin, là, dans un placard, sur une étagère, avec de la poussière. Et puis il y a la vie qui continue, la vie qui va, la belle vie. Non, la vie chrétienne, c'est l'existence en harmonie avec les convictions. C'est la foi qui s'incarne, justement, dans les actes quotidiens d'un chef de famille, d'une maman, d'un patron, d'un ouvrier, d'un enfant. C'est ça. Moi, je vois pas pourquoi on dit la seule doctrine. Pour moi, la doctrine, elle est jamais seule. Elle va de pair avec la vie, avec l'attitude, la conduite. C'est un petit peu ce que nous disions au fond hier. La phrase de Paul Bourget dont on parlait hier. Évidemment, on s'efforce toujours de vivre selon nos convictions, parce qu'on n'a pas justement envie de voir nos convictions petit à petit se ramollir. Petit à petit, nos convictions devenir elles-mêmes molles, caoutchouteuses. On n'a pas envie de voir nos convictions, au fond, se mettre au diapason de notre vie. Si nous vivons mal, nos convictions, elles risquent d'en prendre un coup. Vous voyez? C'est embêtant, des convictions un petit peu cabossées, des convictions qui ont un coup dans l'aile. On retrouve toujours la carrosserie, n'est-ce pas? Toujours embêtant, ça. Non, c'est fait pour rester le modèle. C'est cela, justement, le principe directeur. Je continue cette lecture, je me dis, mais non, je peux pas, moi, mettre la doctrine seule et puis la vie de l'autre côté. Non, c'est la doctrine avec la vie. La doctrine vivante, c'est-à-dire qu'on s'efforce de la pratiquer, quoi. On dit pas que c'est facile. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. On doit y arriver par la prière. Et le bon Dieu ne nous manque pas. C'est nous qui manquons au bon Dieu. C'est pas la grâce qui nous manque, c'est nous qui manquons à la grâce. Alors, je continue ma lecture quand même, et je me dis, mais peut-être que j'exagère après tout, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez vous dire, mais Laurent, c'est quand même un peu déformé, d'où il vient. La formation professionnelle, hein, c'est sûr. Alors, reprenons le texte, qui lui n'est pas suspect. Les traducteurs disent, le cardinal Wojtyla se pose des questions, Il lit, il relit l'enseignement du Concile dans une perspective existentielle. Et en même temps, il s'efforce de mettre en lumière son orientation pastorale. Donc, c'est toujours l'aspect de l'existence concrète, un petit peu distingué, pour ne pas dire opposé, à l'aspect doctrinal. L'aspect pastoral, distingué, pour ne pas dire opposé à l'aspect doctrinal. Et puis alors là, je trouve une phrase quand même. C'est intéressant, hein, ces lectures, on lit ça comme des romans policiers, hein, on cherche et on trouve. Hein. Voici ce qu'il dit dans ce texte, le cardinal Wojtyla. L'accent est placé sur la personne du croyant, non sur le contenu de la foi. Et cela dans le but d'enrichir la foi, avant tout au sens subjectif. Bon, on revient à mon affaire d'accommodation en optique. Là. L'accent du côté du sujet, du côté de la personne du croyant, et non pas du côté du contenu objectif de la foi. Alors qu'est-ce que c'est que cet aggiornamento? C'est une accommodation. Mais ici, on ne s'accommode pas sur l'objet. En optique, là, je me permets de dire ce que j'avais dit. En optique, c'est bien connu. Le regard s'accommode et s'accommode toujours sur l'objet. Qui veut essayer de voir clair, accommodera son regard sur la chose qui est là, en face de lui. Ici, on vous dit en substance, non, l'accent est à placer sur la personne, non pas sur le contenu objectif de la foi, mais sur la façon dont cette foi est vécue, sur le plan subjectif. Ça va pas. Alors, si vous vous dites, mais c'est un peu complexe, non, vous pouvez faire cette expérience, si vous portez des lunettes, vous enlevez vos lunettes, vous essayez. Vous allez voir, les objets vont pas changer. C'est vous qui allez essayer de vous accommoder petit à petit, de voir. Ou alors, si vous voulez faire cette expérience, vous rentrez chez vous, et dans une pièce qui est pas éclairée, vous éteignez la lampe, et puis vous essayez de voir, de distinguer. C'est votre œil qui va s'accommoder. Pas les choses qui vont changer pour vous faire plaisir. C'est comme ça. C'est ce qui est objectif qui reste. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Pour le propos qu'est le Nobassi, ça sert beaucoup. Il en est des yeux du corps comme des yeux de la foi. Les yeux de celui qui a la foi doivent, eux, s'accommoder, eux, se régler sur un contenu qui, lui, ne change pas. La révélation ne va pas changer pour nous faire plaisir. Alors cet aggiornamento qui voudrait que les objets changent, pour que le sujet, là, soit un petit peu plus satisfait, ça ne va pas. Ça, c'est une foi commode, accommodée, raccommodée, même si vous voulez, mais c'est plus la foi. Quand on met comme ça l'accent sur ce côté purement subjectif, on revient d'ailleurs à ce que nous disions hier. Hier, lorsque nous parlions d'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on disait? Nous restons tous de grands enfants. Nous aussi, nous avons besoin de nous élever. Ont besoin d'être éduqués dans la foi. On a expliqué hier, n'est-ce pas, que les enfants devenaient adultes, ils accédaient à la maturité lorsque, justement, ils prenaient les choses comme elles sont, et non pas comme ils voudraient qu'elles soient. L'adolescence, c'est celui qui rêve un peu, et qui imagine les choses. L'adulte, non, c'est celui qui voit les choses comme elles sont, réellement. La foi adulte dont on nous parle si souvent, qu'est-ce que ce serait? Mais ce serait de prendre la révélation comme elle est. Et alors comment est-ce qu'elle est la révélation? Ben d'abord la révélation est close, il faut le savoir. Depuis la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Puis la fin du premier siècle de notre ère. On ne peut pas refaire la révélation. Tout est dans les évangiles. La seule chose qu'on peut faire, c'est expliciter, expliquer mieux, faire mieux comprendre, c'est tout. Mais on ne peut rien changer. On ne peut pas accommoder. On ne peut pas mettre ça un peu comme on accommode les restes à la sauce du jour, au goût du jour. Non, la foi, c'est pas au goût du jour, c'est la foi de toujours. C'est pas à la sauce du jour, c'est pour toujours. Ça, sur les choses, si vous avez tant soit peu d'appétit, vous devez comprendre ça. Mais bien sûr que c'est comme ça. Je le disais hier à propos de l'éducation des enfants, mais ces problèmes que nous voyons, qui sont graves, c'est vrai. Mais on peut les comprendre de façon très très simple, quand on les met en rapport avec les réalités justement les plus simples, les plus objectives, les plus concrètes. Vous savez vous-même comment est-ce que ça se passe. lorsque votre vision s'accommode, c'est votre œil qui change, c'est pas l'objet qui va changer. Et si on veut, si on s'aperçoit que c'est vraiment trop difficile, bon, on met dans ce cas-là des lunettes, on modifie la vision de l'œil, mais c'est toujours au niveau de l'œil que ça se passe. On va pas modifier les, c'est pas parce que vous voyez pas les petits caractères que vous allez brusquement demander à ce que tous les bouquins soient imprimés, comme les titres du nouveliste en première page. Vous n'allez pas demander à avoir un missel imprimé comme les premières pages du nouveliste. Non, ce serait impossible. Non, vous prenez les lunettes qui vont vous permettre de voir parce que vous avez de la presbytie. Bon, ben c'est très bien. On sait toutes ces choses-là. Alors pourquoi est-ce qu'on sait ces choses-là lorsqu'elles sont sur le plan naturel? On les comprend très bien. Il faut que ça deviendrait brusquement mystérieux alors que ce sont les mêmes choses qui s'appliquent, mais sur le registre, évidemment, supérieur. Les vérités essentielles de notre foi. Vous savez, la foi, ça ne nous demande pas de nous dispenser du bon sens. Hein. Au contraire, même. Le bon sens qui s'applique tellement aux choses concrètes, on doit le retrouver dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne s'affranchissent pas du bon sens. On termine peut-être un petit peu cette réflexion avant de passer à une ou deux petites lectures que je voulais vous faire. Arrivez donc à ne pas se contenter d'une vision doctrinale des choses, où les réalités sont là, objectives. Mais s'y intéresser d'un point de vue existentiel, où elles prennent un contenu, une densité subjective, elles sont là beaucoup plus présentes, c'est là sans doute que réside cette accommodation, cette rénovation accommodata, cette forme d'aggiornamento. Je crois qu'on peut essayer de traduire l'aggiornamento comme ça. C'est cette accommodation de type subjectiviste. L'esprit du concile. Alors qu'est-ce que c'est? On nous a dit, l'esprit du concile, ça se résume à l'aggiornamento. Maintenant, on cerne d'un petit peu plus près, on comprend un petit peu mieux peut-être cette notion d'aggiornamento, d'accommodation. Alors il faut, comme toujours, à la fin d'un devoir, parce que l'abbé Duchard m'avait donné un devoir, alors, avant de rendre la copie, il faut conclure, il faut trouver une solution. Alors je répondais comme ça. L'esprit du concile, c'est effectivement une accommodation que cet esprit du concile. L'aggiornamento, ça n'est pas simplement une réforme. Non. Il y a une initiation profonde où le sujet, c'est-à-dire donc le fidèle, vous, moi, n'est plus invité à s'adapter à la révélation. Mais, où il n'est plus, si vous voulez, mesuré par l'objet. C'est l'objet qui est la règle. C'est la révélation qui est la règle. C'est le depositum fidei. C'est le dépôt de la foi. C'est le contenu objectif intangible, irréfragable. Ça n'est plus ça. C'est l'inverse. On vous explique que c'est le fidèle qui est la mesure de toute chose. Et ça se disait déjà dans le temps de Socrate. Il y avait un sophiste qui s'appelait Protagoras. Et qui disait, l'homme est la mesure de toute chose. Et Socrate disait, c'est pas vrai. C'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose. L'homme est mesuré par le réel qui l'entoure. Pour nous, la foi est là, objective. Elle ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons d'elle. Cet objet de la foi, cette révélation, nous l'avons reçue. Nous ne pouvons pas modifier cet objet de la foi. Nous ne pouvons pas le triturer, nous ne pouvons pas lui donner un sens qu'il n'a pas. La révélation est close à la mort du dernier apôtre, nous avons simplement essayé de mieux cerner ce dépôt révélé, d'en donner une intelligence, à le transmettre, c'est tout. Au fond, qu'est-ce que c'est que cette accommodation? C'est un refus de la révélation historique, objective. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si tous ces modernistes s'en prennent à la révélation parce qu'elle a justement d'historique et d'objectif. Eux, tous entendu parler de l'ouvrage de Duquesne sur Jésus-Christ. Mais ça, c'est Jésus-Christ revu et corrigé, et passablement corrigé par Duquesne. C'est terrible, si vous voulez, c'est une inversion. Il faut le dire maintenant, il faut prononcer le mot, c'est une inversion diabolique, puisque, nous le savons bien, nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. On va pas maintenant, quelques dizaines de siècles après, envisager de créer Dieu à l'image et à la ressemblance de l'homme. Ça, c'est une perversion, c'est une inversion, c'est une évolution fondamentale. On veut maintenant privilégier ce qu'on appelle l'esprit, la vie, étant entendu que ce dépôt, dans la mesure où il est là, dogmatique, eh bien, c'est un dépôt mort, c'est une lettre morte. On ne veut plus de cela. Ça, c'est pas faisable. On voit bien qu'en déplaçant l'accent sur le sujet, on favorise, en même temps qu'un rejet de la réalité objective, et le dépôt de la foi est une réalité objective, qu'est-ce qu'on va favoriser? Eh bien, le subjectivisme. Il s'agit d'accommoder sur le sujet, alors que jusqu'à présent, nous avions appris qu'il s'agissait non pas justement de ravaler, diminuer, abaisser le révélé, mais plutôt de se hisser à la hauteur de cette révélation avec la grâce de Dieu, par la vertu de la foi. Alors, vous avez dit deux petits mots de conclusion. Comme je sais qu'il va y avoir une petite séance sympathique après, je n'ai pas l'intention, ni moi non plus, de la raccourcir, je vais faire en sorte que ça se termine pas trop tard. Vous avez ce texte que j'aime beaucoup, du Père Calmel. Vous voyez, si vous ne retenez qu'une chose de ce passage rapide parmi vous que j'ai pu faire, là, en même pas 48 heures, comme je vous le disais, il nous a parlé de certains livres. Il faudrait peut-être que je vienne mettre le nez. Je plonge, et pas simplement le nez, mais aussi les yeux. Ça serait formidable. Et se dire, mais j'ai peut-être justement un peu à m'accommoder à ces lectures-là. Faut que j'y regarde de plus près. C'est important. Mais ne vous dites pas, oh là là, ça va être encore des choses très 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 compliquées, très très difficiles. Les choses qu'il lit, là, c'est des choses qui doivent être lues justement le soir. Non pas avant, mais pour s'endormir. Non, je vous assure, ça a beaucoup plus d'intérêt que ça. Une fois que vous aurez lu ça, vous laisserez tomber tous les romans policiers. C'est beaucoup plus intéressant. Voici ce que dit le Père Calmel. C'est un très beau texte. Il ne traite pas, bien évidemment, de la question qui nous préoccupe, mais il traite de ce mot qui a été, si vous voulez, un petit peu le mot-clé, justement, la notion centrale de cette petite causerie. L'accommodation. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui, le Père Calmel, de l'accommodation? C'est intéressant. Il nous dit, l'amour de Dieu n'est pas accommodant. Et sa douceur est trop vraie pour ne point commencer par l'amertume. Une amertume ascétique, purgative, décapante. Là, c'est plus du Père Calmel, malheureusement, c'est de Laurence. Mais je veux dire par là, bien sûr, que le bon Dieu nous décape un petit peu au début, parce qu'on est tellement rouillé, ce petit décapage est assez nécessaire. C'est ce qu'on appelle la cèse, ce qu'on appelle la pénitence. Mais l'amour de Dieu n'est pas douceâtre, doucereux. C'est une douceur vraie. Il est doux. Il n'est pas trop doux, il n'est pas douceâtre, il n'est pas doucereux, il n'est pas mièvre, c'est fort. C'est de la douceur forte. Il est doux, il n'est pas mou. Dieu est doux. Alors son amour, évidemment, nous surprend. Ça nous déconcerte. Il n'est pas accommodant. Même quand il semble, cet amour, épouser les tendances de la nature, nature humaine. Il ne coïncide pas avec elle. C'est pourquoi on ne peut pas s'accommoder. Et l'aggiornamento serait vu ici comme une coïncidence avec les tendances de la nature. Vous savez, c'est ça. L'aggiornamento demanderait au surnaturel de s'accommoder du naturel. C'est-à-dire à la grâce de s'accommoder à la nature. C'est pas possible. La nature a besoin d'être guéri et élevé, c'est la gratia sanant cette élévance. La grâce, n'est-ce pas, elle nous prend. Nous avons une nature infirme, déchue, depuis le péché originel. Genèse chapitre 3. Donc, on est blessé. La grâce va guérir ça. Et elle va nous élever à l'ordre naturel. C'est pas une accommodation, ça. C'est pas la nature qui accommoderait la grâce à ses goûts. Ou c'est des goûts. C'est pas la nature qui accommoderait la grâce au goût du jour, à sa sauce à elle. Ça n'est pas la nature qui ferait de Dieu une image et une ressemblance de l'homme. Ça n'est pas la nature qui rendrait Dieu simplement humain en oubliant qu'il est divin. Dieu, vrai Dieu, vrai homme. Là, cette accommodation-là, elle n'est pas possible. Ou alors, on ne sait pas ce que c'est que les rapports de la nature et de la grâce, on ne sait plus ce que c'est que la grâce. L'amour de Dieu, l'amour surnaturel, la charité, avec la charité, l'espérance, la foi, ne coïncident pas avec les tendances de la nature. Notre nature, encore une fois, elle a besoin d'être guérie, elle a besoin d'être élevée. Alors évidemment, si on ne pense pas, tu ne penses pas à ces choses-là, si on ne les croit pas, si on n'y croit plus, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, mais la nature, elle est bonne. Il n'y a plus besoin de baptême. Il n'y a plus besoin d'effacer les péchés originels. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de baptiser les enfants. La nature est bonne, elle n'a pas besoin d'être guérie. Puis la nature, elle est de plein pied avec le bon Dieu. Il n'y a pas besoin de passer pour l'ordre de la charité, comme disait Pascal. Il n'y a pas besoin de passer dans l'ordre surnaturel. Le Père Calmel, excusez cette parenthèse, je referme. Le Père Calmel, je reviens à lui. D'une manière ou d'une autre, il va cet amour de Dieu à l'encontre. Et ces tendances, les tendances humaines, sont invitées à se redresser dans une autre mystérieuse direction. Donc elles sont invitées à s'élever et à s'accommoder. Dieu ne serait pas, dit le Père Calmel, le vrai Dieu, si son amour n'avait pas ce caractère déconcertant. Et bien moi, je vous donne un petit peu mon avis. Je crois que le propre de la religion conciliaire, c'est une religion qui ne veut plus être déconcertée par Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette religion? Eh bien, elle s'invente, évidemment, un Dieu très, très accommodé, très commode. Trop commode. Trop commode pour ne pas être humain et pour ne plus être divin. Et c'est ça le fond du problème. Donc, le Père Calmel, je crois, a bien, bien raison de nous dire cela. Hier, je vous parlais de l'éducation. Mais évidemment, nous parlions de l'éducation comme une élévation. L'éducation, c'est une élévation sur le plan naturel, mais aussi, vous avez bien compris, sur un plan supérieur, sur le plan surnaturel. Cette élévation, il faut bien comprendre, elle ne peut pas se faire de façon purement naturelle. Nous ne nous élevons pas à Dieu de façon naturelle. C'est évident que les parents, les éducateurs sont là pour aider les intelligences à se redresser, les volontés à se redresser, c'est vrai, mais il faut la grâce aussi pour que, elles puissent, cette intelligence et cette volonté, aller à la source de toute vérité, à la source de tout bien, qui est Dieu. La grâce, vous disais-je, bien sûr, elle ne détruit pas la nature, mais elle la guérit, elle l'élève, elle la présuppose. Mais évidemment que l'éducateur s'efforce de faire en sorte que cette nature soit bien dressée, redressée, bien formée, bien... C'est vrai, mais il faut Dieu, il faut aussi cette... Et il faut surtout cette intervention de Dieu qu'on appelle la grâce. Et c'est cela, on le voit bien... Maintenant, essayons, avant de donner le dernier mot à Saint-Félix, essayons de voir un petit peu les effets que nous avions constatés. On était parti des effets, on avait dit certaines choses, qu'on constate tous, vous, moi, et on dit, bon, maintenant on cherche la cause. Mais maintenant, si on veut être sûr que c'est bien cette cause-là, il faut qu'on puisse redescendre à nouveaux effets et dire, oui, c'est bien ça, c'est bien cette cause-là que je trouve dans tel effet, c'est bien cette cause-là qui explique là ces effets. Bon, parmi les effets que nous avions constatés de la crise dans laquelle nous vivons, peu de baptême. Ou des baptêmes conçus uniquement comme des entrées dans la communauté chrétienne, mais pas le baptême qui efface le péché originel. Ben oui, là c'est parce qu'il y a une inintelligence du problème de la nature blessée par le péché originel, qui a besoin d'être réconciliée. Attention, c'est pas... Nous qui devons accommoder Dieu à notre nature. C'est notre nature qui doit être réconciliée avec Dieu. Et ça, elle ne pouvait pas le faire toute seule. Si notre Seigneur n'était pas venu, il n'y avait pas de réconciliation du tout. C'est la rédemption. Qu'est-ce qu'on avait constaté parmi les choses qui nous bouleversent tous? On avait constaté, et il faut voir si à chaque fois, n'est-ce pas, on retrouve cette accommodation, comme nous avons dit. On avait constaté... de moins en moins de pratiques. On vous dit, la religion quoi, c'est bien gentil, mais enfin, il y a des gens qui pratiquent pas et qui sont meilleurs que ceux qui pratiquent. Il y a des gens qui mettent pas les pieds à l'église et qui vont au ciel. Il y a des gens même qui font des choses que les bons chrétiens réprouvent, mais qui vont aller au ciel. Il y a des chansons qui sont faites là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire, je demande qu'on amène le surnaturel au plan du naturel. Ça veut dire surtout qu'on hisse la nature, la philanthropie, la chaleur humaine au niveau de la grâce. Alors, à ce moment-là, Coluche, c'est un saint. Les Restos du Cœur, c'est la nouvelle activité du nouveau Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, Coluche, même combat. Non, je suis désolé. C'est pas ça. Alors là, c'est pas ça du tout. La philanthropie, je sais pas, le docteur Kouchner portant des sacs de riz devant des batteries de caméras sur les côtes de Somalie, la charité cathodique, comme on dit, médiatique en tout cas. Alors on vous dit, ça c'est beau, c'est grand, c'est... Mais non, non. C'est pas vrai, ça c'est pas de la charité. Je juge pas les intentions, je juge pas au fort interne, ça ne me regarde pas. Mais je vais pas mettre sur le même plan une action philanthropique, humanitaire et la charité, qui elle se place sur le plan surnaturel, sur le plan d'une vertu théologale, où il s'agit d'aimer le prochain pour l'amour de Dieu. C'est pas la même chose. Quand Saint Louis soigne les lépreux, c'est pas le prédécesseur de médecin du monde. Lui, quand il voit un lépreux, il voit Jésus-Christ. Et il soigne Jésus-Christ quand il soigne. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. C'est tout à fait différent. Ça se place pas du tout sur le même plan. Cet humanitarisme dégoulinant, cette philanthropie gélatineuse, dont les médias sirupeux nous engluent, c'est un côté un peu poisseux tout ça quand même. C'est pas la charité, c'est pas du surnaturel. C'est une contrefaçon. C'est de la philanthropie, si vous voulez, mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est ça. On voit actuellement de moins en moins de prêtres. Oui, c'est une chose qu'on a vu. Et les prêtres qui restent font quoi? Oh, ils vont vous dire, oh non, moi je veux pas aller m'enfermer dans un confessionnal. Hein. Il y a autre chose à faire. Il paraît que dans ce diocèse, vous avez quelqu'un qui aime faire de la moto. Et puis, aller au bistrot, ça rime ensemble, bien sûr. De la moto, bistrot, bon, ça c'est de la chaleur humaine. On est bien entre camarades et on se tient chaud. Mais c'est pas la charité chrétienne, je suis désolé. C'est pas le surnaturel. Je suis désolé, un prêtre c'est pas une assistante sociale. C'est autre chose. Il est pas là pour faire du social. C'est très important qu'il y ait des assistantes sociales. Très important qu'il y ait des âmes qui se dévouent. Si elles le font dans un esprit chrétien, c'est formidable. Très très beau. Mais un prêtre, il est ordonné pas pour faire du social. Il est ordonné pour dire la messe et pour permettre aux âmes, justement, d'avoir accès à cette grâce. Seigneur, Sanan, cette élévance. Mais je crois quand même que les âmes, elles ont plus accès à la gratia, Sanan, cette élévance, au confessionnal qu'au bistrot. Désolé. L'apostolat des bistrots, c'est quand même limité. Alors qu'on refuse, la preuve, c'est que on sera bien content de prendre un petit verre tous ensemble. Surtout moi, parce que moi je parle, pas vous. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la mission du prêtre. On n'est pas là pour faire du social. Or, on a là justement, on le voit bien, un ravalement, un abaissement du rôle du prêtre. Ça se voit de façon criante, ça saute aux yeux, là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie. Pourquoi? Mais parce que le prêtre va essayer lui-même de passer inaperçu, de ne pas se faire voir. Donc il renoncera à ce qu'il distingue, il renoncera à son habit. Les gens qui ne mettent pas beaucoup les pieds dans les églises, ils les prêtres, on les voit plus, on ne sait plus où ils sont, on ne sait pas où ce qu'ils sont. On ne témoigne plus là, de façon visible. Pourquoi? Mais parce que justement, ils ne se voient pas comme ce qu'ils doivent être, ce qu'ils devraient pourtant se réaffirmer tous les jours dans leur méditation. Ils sont là, intermédiaires, entre le bon Dieu et les hommes. Donc il faut qu'on les voie, il faut qu'on sache qu'on a affaire à eux. Et quand on a besoin d'eux, on doit pouvoir faire appel à eux. Un prêtre, évidemment, en soutane partout, parce que on peut avoir besoin de lui partout. C'est le service à 24 heures sur 24. Ça ne peut pas être autrement. Si on a besoin de lui, on doit savoir qu'on a affaire à lui. Cette façon, n'est-ce pas, de dissoudre le caractère sacerdotal, donc l'aspect surnaturel, de l'amener, n'est-ce pas, au niveau purement naturel, faire du prêtre un homme comme les autres, un passe-partout. C'est pas vraiment ça, ça c'est pas dans la tradition, ça s'est jamais vu, ça ne s'est pas fait ainsi, jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Pourquoi? Mais là encore, comprenez bien, cette accommodation. Encore une fois, il s'agit de ravaler, ramener, rabaisser au niveau naturel, au niveau subjectif. Il est évident, je citerai juste une dernière chose avant de prendre le texte que je vous ai promis. Le prêtre a besoin d'être identifié. Il faut qu'il soit visible. Il faut qu'on le reconnaisse. Non seulement à son habit, mais à son style de vie, sa façon d'être, d'agir, de réagir. On doit pouvoir le repérer. Pourquoi? Parce que justement, il va pouvoir entraîner. On parlait d'éducation hier, on parlait d'élévation. Il est évident que si on voit un homme religieux, une âme consacrée, vraiment livré au bon Dieu, donné, abandonné, ça va aider. On a besoin comme ça de repères, on a besoin. La vie est quand même difficile, c'est pas vous, j'apprendrai. Faut lutter contre pas mal de tentations, il y a beaucoup d'épreuves. On a besoin de repères, de balises, de phares. Où est-ce qu'on va les trouver? C'est les couvents. Où est-ce qu'on va les chercher? Mais auprès des hommes qu'on dit les hommes de Dieu, qui pas auprès d'hommes qui seraient complètement ravalés, là. Je lisais là tout à l'heure avant de venir donc cet article insensé où on vous explique qu'il faut que les prêtres soient mariés pour qu'ils aient l'expérience de l'infidélité, pour qu'ils comprennent celle des autres. Où va-t-on là? On marche sur la tête. Le prêtre comprend très très bien toutes ces choses-là, il n'y a pas besoin d'en faire l'expérience. Et il ne peut véritablement aider dans la mesure où justement il n'est pas sollicité de la même façon. Ça, ce sont des choses qui se comprenaient. L'homme de la rue comprenait ça très 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 bien. Les gens qui sont parcyclés comprennent ça très très bien. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la citation à laquelle je pense est la suivante. Une citation du père de Breuil, qui disait ça dans les années 30 en France. Il disait, et on peut l'appliquer, je crois, aux âmes de prière, aux âmes véritablement livrées à Dieu. Il disait, les dirigeants sont pas ceux qu'on croit. Les dirigeants, c'est pas ceux qui dirigent. C'est ceux vers lesquels on se dirige parce qu'ils sont un exemple, un modèle. Pour nous, nos dirigeants, c'est vrai, ce sont les saints prêtres, le saint curé d'Ars, la saint Nicolas de Flux ici en Suisse. C'est vrai, c'est eux qui dirigent parce que c'est vers eux qu'on se dirige, c'est parce qu'on voit en eux un modèle. Le jour où le modèle disparaît, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de repères, on perd le nord, on est complètement déboussolé. Le jour où justement il n'y a plus de ces âmes d'élite, ces grands saints qui sont comme des phares dans la tempête que nous traversons, le jour où il n'y a plus ça, le jour où on éteint les phares, qu'est-ce qui se passe? On est livré à nous-mêmes, on s'en sort plus. Mais qu'est-ce que c'est justement que ces grands saints, ces phares? Et justement, ce sont des gens qui sont pas du tout en train de diminuer les exigences du bon Dieu, qui sont pas du tout en train d'accommoder le bon Dieu, qui sont pas en train de l'accommoder à leur sauce, ce sont pas des gens qui sont en train de le mettre au goût du jour, ce sont ceux qui prennent Dieu avec toutes ces exigences, qui ont été enthousiasmés par les exigences de Dieu. Et parce qu'ils ont été enthousiasmés, ils nous ont contaminés, ils nous ont donné, à nous aussi, le goût, l'envie de les suivre. Et on se dit, nous aussi, on est enthousiasmés par eux, parce que ils ont donné cet exemple. Voilà comment la chrétienté se passe. Mais ces choses-là, vous les comprenez très très bien. Vous-même, vous voyez bien, si votre foi est enthousiaste, fervente, vous voyez bien l'impact que ça a sur vos enfants, l'influence, bien sûr. Si cette foi était tiède, médiocre, froide, que sais-je, c'est difficile d'enthousiasmer les jeunes comme ça. Donc il ne s'agit en rien d'accommoder. Il faut s'accommoder, il faut s'élever. C'est comme ça, ça a toujours été dans ce sens-là. On ne va pas changer de sens. Ça a toujours été dans cette direction-là. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour que nous, les hommes, soyons rendus participants de la vie divine. C'est un mouvement comme ça. Il est descendu pour que nous montions. Non pas pour que nous le laissions, n'est-ce pas, comme ça. Voyez. Alors terminons cela à la fin du colloque, Monsieur Félix, donner une homélie à la messe de clôture qui résume bien tout ça. Parce qu'au fond, cette prétention à vouloir ramener Dieu au niveau de nos petites mesquineries, de nos petits caprices, de nos peurs, de nos visions humaines, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est diabolique. Il ne s'agit pas d'être nous les dieux et Dieu qui serait comme un homme. C'est pas ça. Non, Dieu s'est fait homme pour que les hommes soient rendus participants de la vie divine. Donc ils acceptent cette grâce qui, les guérissant, va les élever et les rendre participants à sa vie, à lui. Saint Paul ne disait pas, comme disent nos modernes, « Faut vivre votre vie ». Il n'est pas ça. Saint Paul ne disait pas « Je vis ma vie ». Je vais vivre ma vie, que ça veut dire ça? Saint Paul disait pour moi. Vivre, c'est le Christ. Il disait, il n'y a que ça qui compte. C'est que le Christ vive en moi. Saint Jean-Baptiste disait pas, il faudrait qu'il s'accommode un petit peu à ma portée, qu'il se mette à mon niveau. Il disait exactement le contraire. Faut que je diminue et que lui grandisse. C'est lui qui m'élève. Les saints ne sont pas tout à fait d'accord avec l'aggiornamento. On s'en doutait un peu quand même, faut l'avouer. Mais ils n'ont pas dû être convoqués. C'est dommage qu'on ait convoqué tous ces experts protestants, orthodoxes, juifs, tout ça. On aurait mieux fait de convoquer, à mon avis, d'autres experts, des experts en sainteté. Saint-Nicolas de Flux aurait été convoqué, ça aurait un petit peu changer l'ambiance du concile, je trouve. Quand il dit « Prenez-moi à moi, donnez-moi à vous », ça change quand même un peu la perspective. Hein. On voit bien dans quel sens les choses se passent. Alors que disait Mgr Feuillet dans la ligne un petit peu de cette tradition, qui est la tradition des saints, donc de l'Église catholique? Tout être humain porte en lui la marque de son auteur, de son créateur. Il est toujours, n'est-ce pas, en dépendance de son Créateur. L'homme n'est pas son Dieu. Il se trompe, ceux qui veulent jouer au Dieu. Et tôt ou tard, même déjà dans cette vie, Dieu le leur rappelle. C'est à ce niveau-là qu'il faut leur parler, qu'il faut essayer de parler aux pauvres hommes d'aujourd'hui. Il faut leur dire ce que disait Saint Michel à Satan, « Quis ut Deus ?» qui est comme Dieu. Il faut leur rappeler que l'homme n'est rien devant Dieu, que Dieu est tout, que l'homme même, lorsqu'il profère encore des blasphèmes, reçoit de Dieu son existence, et même la force de parler et de penser, sont entièrement dans la dépendance du bon Dieu. Jamais l'homme ne peut être en dehors de cette dépendance, que ce soit au niveau de la nature ou au niveau de la surnature, au niveau de la grâce, toujours l'homme est sujet de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Jamais il ne pourra sortir de cette dépendance. Même s'il prétend la refuser, peu importe, il reste dans ce plan de Dieu qui conduit toutes choses, de Dieu qui sait tirer de ce mal qu'il permet, mal inouï, un mieux, non seulement un bien, mais même un mieux. Comme l'homme est petit, comme il est important de le rappeler au libéralisme ambiant qui veut se faire Dieu, rappeler qu'il ne l'est pas, qu'il y a un Dieu auquel tout homme aura à rendre compte de chaque instant, de chaque acte, de chaque pensée. Tout lui est soumis, absolument tout. C'est vers ce Dieu que l'âme chrétienne, donc nous aussi, nous devons nous tourner, vers cette providence de Dieu qui permet des circonstances de vie à travers lesquelles il fait tout coopérer au bien de ceux qu'il aime. Donc notre sentiment doit être un sentiment d'humilité devant Dieu. Effectivement, nous devons être là, soumis à Dieu. Alors vous allez me dire, mais vous êtes déprimant, vous. L'humilité, la dépendance, la résignation. Non. L'humilité s'accompagne de confiance. Regardez un enfant. Un enfant, évidemment, ça reste à sa place parce que ça doit tout à ses parents. C'est très bien. Il doit le vivre, le couvert, tout ça. Les petits enfants ont très bien compris ça. Donc ils sont humbles, ils sont dans la vérité, ils sont à leur place, ils attendent que papa, maman donne ce qui est nécessaire. Nous sommes dans cette situation-là. Mais c'est une humilité simple, confiante, affectueuse, souriante. Il y a un devoir d'humilité pour nous, un devoir de recourir à Dieu, à son aide promise, à sa grâce. Le grand danger devant la constatation des malheurs de notre temps, ça serait justement la déprime, le désespoir. Ça serait de compter sur soi alors qu'il faut compter sur Dieu. Et ici, M. Félix conclut par ce sur quoi je voudrais moi terminer pour lui laisser le dernier mot. Il dit, c'est vraiment dans une période bouleversée, c'est vraiment une tempête. Bon, il y a des phares, enfin, c'est quand même la tempête, ça secoue, hein. Il y a du roulis, du tangage. Ceux qui ont mal de mer, les âmes sensibles, peuvent avoir vite le cœur retourné. Faut tenir. Il y a bon la barre. Tenir le cap. Qu'est-ce qu'on fait? Il se trouve que les apôtres ont été dans la même situation que nous avant nous. Alors c'est bien, on va regarder ce qu'ils ont fait. Oh, ben, ils ont pas fait ce qu'il fallait. Ils se sont affolés. Parce qu'ils voyaient que le Seigneur dormait. Alors, ils ont paniqué. Panique à bord. Faut jamais paniquer à bord. Il n'y a pas, je pense, de comparaison plus saisissante, dit Monsieur Félix, que celle de notre Seigneur qui dort dans la barque. Si nous avons cette humilité confiante, qu'est-ce que nous devons dire? Cette barque, bien sûr, elle flotte sur un milieu mouvant. Les pères de l'Église l'ont comprise comme étant l'Église dans laquelle repose notre Seigneur. Notre Seigneur est la tête de l'Église, la tête du corps de l'Église, il l'est pour toujours, il est Dieu, même lorsqu'on a l'impression qu'il dort. Et ces éléments extérieurs qui semblent attaquer la barque, qui la mettent en danger réel, tous ces éléments sont réglés par celui qui dort dans la barque. Et il ne faut pas oublier. S'il y a du tangage, il y a du roulis, ça vient de celui qui est là, à la tête de la barque. Rien de ce qui se produit ne se fait sans lui. Qui donnait à chacune des vagues qui s'approchaient du bateau leur hauteur ou leur profondeur? Qui fixait jusqu'à la plus petite goutte la quantité d'eau qui pénétrait dans le bateau? Et vous voyez les apôtres là, qui est coupé, sinon celui qui dormait dans la barque. Qui donnait au vent sa force, lui permettant de souffler en tempête? Celui qui dormait dans la barque. Les apôtres sont effrayés. Il leur est requis de travailler à rejeter l'or. L'eau hors du bateau, il faut rejeter cette eau, on écope. C'est leur effort, mais cela ne suffit pas pour sauver la barque. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. On réveille notre Seigneur, et notre Seigneur de faire un reproche aux apôtres. Homme de peu de foi. Il se lève, un mot, la tempête est terminée. L'ordre du silence est tout se tait. Immédiatement, sans discussion, les vagues, le vent, tous ces éléments pourtant si subtils, qui semblent totalement hors du contrôle de l'homme, sont bien au contrôle de Dieu. Si nous voulons avoir confiance, il faut avoir l'humilité. Si nous restons justement dans cette humilité, tout à fait, c'est vrai, à la fois déconcerté et soumis à Dieu, nous aurons cette confiance. Une confiance qui n'est pas, ça c'est pas le Valium qui donne cette confiance-là, c'est dans sa confiance surnaturelle. Elle n'est pas remboursée par les caisses. Je veux dire. Ça, elle est délivrée plutôt au guichet là-bas, qui est au fond, parce que vous voyez ce que je veux dire. Cette confiance, cette paix, cette réconciliation avec le bon Dieu. Là, à ce moment-là, soumission, humilité, confiance, et on traverse la tempête, on garde le cap, comme ça. Mais ça n'empêche pas de se donner un petit cordial, c'est ce qu'on va faire tout de suite.